Aujourd'hui, je veux vous parler d'une émission que vous connaissez peut-être. Moi, je ne sais pas si j'ai même écouté une émission. Verset 3, jusqu'au verset 11. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père au complet. Ça vous dit quelque chose, ça? On efface, on recommence avec Chantal Lacroix. C'est ça, Chantal Lacroix? Oui, OK. Et puis, cette émission-là, je ne sais même pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'est une émission, Mme Lacroix, elle cherche des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide, puis elle trouve souvent des personnes qui sont vraiment dans les grosses épreuves. Et aujourd'hui, je veux vous parler très brièvement de la famille Lacroix-Bergeron. Eux autres ont été choisis par Chantal Lacroix pour les raisons suivantes. C'est que la maman est décédée d'un cancer et le papa, il souffre d'un syndrome qui l'ont rendu sourd, muet et presque aveugle. Ça va pas bien. Non seulement ça, mais leur maison a été pleine de moisissures. Alors, comprenez-vous que le topo de l'émission pour... essayer d'aider cette famille-là, il était dû, comme on dirait. Hein? Et puis, quand j'avais écouté l'émission une fois, il y a deux moments vraiment spéciaux, émouvants, pendant cette émission-là. La première, c'est quand on annonce à la famille qu'on va les aider et qu'on va rénover la maison de fond en comble pour qu'ils puissent être dans un contexte idéal. Alors ça, c'est très émouvant parce que comprenez-vous que ces gens-là sont, c'est difficile pour eux. C'est comme une consolation qu'ils peuvent avoir. Et le deuxième moment très émouvant, savez-vous c'est quand? Quand ils découvrent, bien sûr, hein, la maison, comment le père, lui, vu qu'il est à moitié aveugle, je ne sais pas à quel point il a joui de tout ça, mais quand même, à ce moment-là, les gens étaient vraiment émus. Puis, tu écoutes ça, là, puis je veux dire, il faut avoir le cœur dur pour ne pas avoir envie de verser une larme. Là. C'est vraiment quelque chose. Alors, l'épreuve était grande, mais la consolation que ces gens-là ont expérimentée suite à l'émission, puis suite à l'aide qu'ils ont reçue, bien, était proportionnée à la peine et à la difficulté que ces gens-là vivaient. On comprend. Ils ne pouvaient pas ramener sa mère, ils ne pouvaient pas redonner la santé au papa. Mais au moins, en rénovant la maison, ça a été pour eux une grande consolation. Et le texte qu'on va regarder aujourd'hui, c'est exactement c'est un peu le même principe que nous retrouvons. Il y a une consolation et il y a une épreuve, pardon, ou des épreuves, et la consolation est proportionnelle à l'épreuve, à la difficulté qu'on peut vivre. Puis souvent, comme c'est le cas dans le texte d'aujourd'hui, ça cache ou manifeste, Jésus est entre les deux, des bénédictions. Il y a des bénédictions à travers des épreuves. Vous savez, je suis à la bonne planète, dans le sens que, franchement, vous avez sûrement vécu des moments difficiles, mais à travers ces moments difficiles-là, il y avait des bénédictions que le Seigneur vous a envoyées. Vous avez peut-être réalisé des choses, apprécié des choses comme jamais vous les avez appréciées par la suite, je ne sais pas. Tu sais, Gilles, tu sais que tu sois en bonne santé maintenant, c'est quand même un petit plaisir, quand même, non? C'est une bénédiction, tu sais, c'est un plaisir de voir comment Dieu l'a gardé, comme il a partagé ce matin. Alors, on lit ensemble, si vous voulez bien, le 2 Corinthiens, chapitre 1, et on va lire à partir du verset « Des miséricordes et le Dieu de toute consolation ». Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, et pour votre salut, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Alors que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, on voudrait, oui, implorer cette grâce sur nous afin que nous puissions trouver encouragement, consolation, que nous puissions réaliser la richesse de ces paroles qui peuvent tellement faire de la différence dans nos vies de tous les jours. Alors, merci d'avance pour cette bénédiction que tu voudras bien nous partager ce matin ensemble. Amen. Alors, le Dieu qui console, c'est au verset 3, l'apôtre dit carrément qu'il désespérait de conserver la vie, tellement c'était difficile. Nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Wow! C'était quand même quelque chose. Mais comment Paul commence-t-il sa lettre? Il bénit Dieu! Moi, j'aurais fait des petites requêtes de prière. Non, lui, il bénit Dieu. C'est la première chose qu'il fait, c'est une attitude de louange, puis un moyen pour vaincre le découragement. J'ai entendu parler d'un livre, ça disait « La puissance de la louange ». J'aime vraiment pas l'idée du titre, là. Mais en attendant, quand on est reconnaissant, ça fait comme enlever la place au découragement. C'est comme ça remplit tout l'espace de nos cœurs. Alors, il n'y a plus de place pour le découragement si on est reconnaissant. Et il y a toujours moyen d'être reconnaissant. Il y a toujours quelque chose. Et il appelle Dieu le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, au verset 3. Qui nous console en toute affliction. Et il n'y a pas de domaine, selon ce texte-là, qui soit exclu dans lequel Dieu veut et peut nous consoler. Puis la source de la consolation dans le texte ici, c'est carrément Dieu lui-même. Il y a un verset d'Ésaïe dans le chapitre 63, verset 13, qui dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Et un vieux frère avait dit à propos de ce verset-là, « Dieu est un père avec un cœur de mère. » Et ça, c'est précieux, non? Qui d'entre nous n'avons pas expérimenté la consolation d'une maman? Juste le fait qu'elle est là, juste qu'elle nous prenne dans nos bras quand on est petit, là. Tu sais, c'est quelque chose de formidable, mais c'est un peu le cœur de Dieu. Tu sais, Dieu est un père avec un cœur de mère. Puis j'aimerais que vous preniez bien note que si l'apôtre Paul peut dire avec autant d'assurance que Dieu le console, l'a consolé, que Dieu est le consolateur, c'est que Paul avait lui-même expérimenté des choses extrêmement difficiles dans lesquelles il a été consolé, dans lesquelles il a expérimenté la consolation que Dieu veut bien accorder à ceux qui lui appartiennent. Mais ça implique quoi, la consolation? Quand on parle de consolation, de réconfort, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, j'aimerais dire d'abord ce que ça ne signifie pas. c'est que ça ne veut pas dire que les difficultés disparaissent. Et ça, c'est important qu'on le réalise. Être réconforté, ça signifie plutôt ceci. Mettre un terme à un sentiment douloureux, recevoir la force, le courage et l'espérance qui permet d'affronter les difficultés et de persévérer dans la foi malgré l'épreuve. OK? Et ça, c'est important. La consolation de Dieu, c'est pas « il enlève tout, puis là, ouf, je suis soulagé ». Des fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quelle attitude j'ai devant cette épreuve ou ces épreuves que j'ai. Alors, si vous aimeriez expérimenter les consolations de Dieu, bien, je vous annonce officiellement qu'il va falloir que vous soyez éprouvés. Et là, vous n'êtes pas obligé d'éprouver votre mari, puis mari, vous n'êtes pas obligé d'éprouver vos femmes. Quand je dis ça, ça va venir tout seul, n'est-ce pas? Mais le point, c'est que plus nous souffrons, plus nous expérimenterons la consolation de Dieu. Ça implique que nous devons souffrir, comme la famille Bergeron-Lacroix. Et si elle a été choisie, moi, ils ne sont pas venus à ma porte pour refaire ma maison. Pourquoi? Je ne suis pas éprouvé. Mais la famille Lacroix, parce qu'ils sont éprouvés, ont été choisis pour être consolés. Vous me suivez? C'est quand même un fait. Alors, voilà, la consolation, elle est vécue par ceux qui ont besoin d'être consolés. Si tout va bien, bien, c'est parfait pour vous. Mais je veux dire, y a-t-il quelqu'un ici que tout dans votre vie est parfait? En tout cas, si oui, vous êtes chanceux, vous êtes béni par-dessus béni. Mais il y a toujours des difficultés, il y a toujours des épreuves. Alors, troisièmement, les bienfaits de la consolation. La première chose, ce n'est pas vraiment clairement dans le texte, mais j'aimerais quand même dire que la consolation de Dieu nous rapproche de lui. Tu sais, si par exemple, vous avez eu une épreuve, moi je peux reculer un peu, là, quand j'ai eu, peut-être certains d'entre vous se rappellent, j'ai eu un cancer en 88, et puis j'ai été une dizaine de jours à l'hôpital, puis j'étais isolé parce que j'avais la radioactivité qui était dans mon crâne. Et puis ma femme, qui était enceinte de ma fille Lauriane, qui a quand même 35 ans, là, ça fait des lunes. Mais Louise, elle ne pouvait pas venir me voir à l'hôpital. Mais j'ai eu 110 personnes, parce que j'ai compté, parce que le soir, j'appelais Louise pour lui dire, elle a dit, puis y a-t-il quelqu'un qui est venu te voir? Ben oui, puis là, ben, tu sais, pour ne pas en échapper, je les ai notés. Puis à la fin du séjour, j'avais 110 personnes qui étaient venues me voir. Et là-dessus, mon frère et mes sœurs n'étaient pas venus. Bon, ça, c'est un détail. Mais le point, c'est que j'avais un frère, entre autres, que tous les midis, il ne travaillait pas très loin. Serge Côté, pour ceux qui connaissent Serge, il doit venir prêcher ici de temps en temps. Bien, Serge venait, il m'amenait un beigne puis un café. Puis, il ne fallait pas trop qu'il s'approche de moi parce que... Mais comprenez-vous l'affection que j'ai développée pour ce frère-là dans une telle circonstance? Ça m'a tellement fait du bien. Ça ne m'a pas enlevé le cancer. Mais ça m'a fait du bien. C'était une bénédiction. Puis une autre chose, c'est qu'on va pouvoir à notre tour être capable de consoler. Si vous regardez comme il faut le verset 4, il nous console « afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler, j'allais dire, à notre tour, ceux qui se trouvent, dans l'affliction. » Alors, le but de l'épreuve que Dieu permet dans nos vies, elle a aussi un côté qui est plus ou moins évident, mais qui existe, c'est qu'on puisse, nous aussi, consoler les autres parce qu'on est rendu ou devenu sensible parce qu'on a eu une épreuve. Et qui d'entre vous n'a jamais eu d'épreuve? Alors, ces épreuves-là, je ne sais pas, mettons, un deuil. Bien, si vous avez expérimenté un deuil, que ce soit un proche ou que ce soit... maman, papa, tu sais, je veux dire, tout le monde passe par là, bien, vous allez être beaucoup plus apte à consoler quelqu'un. Je me rappelle Donald Cox, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donald Cox, je le connais depuis longtemps, c'est lui qui nous a mariés, Louise et moi. Et puis, vous savez que sa fille, Caroline, a été tuée dans un accident de voiture à l'âge de 31 ans. Et c'est sûr, j'ai été au salon. Puis, savez-vous, qu'est-ce que j'ai pu dire à mon frère? Il est pris dans mes bras. puis je n'ai pas dit un mot. Il n'y avait rien à dire. Parce qu'on a expérimenté des choses difficiles, on a une sensibilité. Alors, voyez-vous, il y a des bénédictions, que mon frère chez nous, Eric Christman, il dit, c'est des bénédictions déguisées, l'épreuve. Il y a quelque chose de super positif là-dedans, et une de ces choses positives-là, c'est qu'on peut, à notre tour, être utile pour consoler. Alors, on a un devoir. Si vous avez déjà eu une épreuve, on a un devoir. Et j'ai lu dans un commentaire ceci, il dit, « Ne fuyons pas la chambre du malade ou le salon funéraire, mais soyons rapidement présents lorsque quelqu'un a besoin de notre consolation. » Alors, il y a des projets, peut-être même ici dans l'Assemblée, il y a des gens qui vivent des choses peut-être très difficiles, des choses particulières, et qui ont besoin peut-être de consolation. Alors, est-ce que je suis là, moi, vous, chacun d'entre nous, là, est-ce qu'on est-tu présent? Ou bien on dit, ah, pauvre lui, on va prier pour toi. Oui, c'est bien beau, mais tu sais, je veux dire, peut-être que ça devrait se concrétiser un petit peu plus. Vous savez, je pense sincèrement que le christianisme biblique est extrêmement concret. Et je pense aussi que le christianisme biblique est tourné vers les autres. Tout récemment, j'ai été invité à déjeuner un monsieur que je ne connaissais pas, qui reste en Ontario, et puis qui logeait chez un frère de notre église. On était invité à déjeuner parce que le frère, supposément, il s'intéressait à l'heure de la bonne nouvelle. Il connaissait l'heure de la bonne nouvelle, puis il écoutait ça, puis il aimait l'émission. Alors, je me suis dit, ah, ben ça va être le fun, tu sais, puis il va sûrement me poser plein de questions. Pensez-vous? Ben oui, il m'attendait à ça. Zéro question sur l'heure de la bonne nouvelle. Correct, là. Mais qu'est-ce qui est un petit peu triste, c'est que il n'a pas arrêté de parler de lui. Ouais. C'est là, tu sais, le christianisme biblique est centré sur les autres. Et M. Bernet, que vous avez connu pour plusieurs d'entre vous, disait, on est égoïste même dans nos prières. C'est tout le temps, en tout cas, je pourrais allonger là-dessus parce que j'ai beaucoup de, je pense à, il y a plein de flashs qui viennent à mon esprit, mais je ne veux pas faire le procès de qui que ce soit. Et puis, troisièmement, la consolation qu'éprouvent les uns console les autres. Alors, les souffrances que Paul a endurées, ainsi que les consolations qu'il a expérimentées, ont été un encouragement pour les Corinthiens, parce qu'ils ont vu que les souffrances qu'ils ont vécues les ont encouragés. Et un exemple tout à fait logique, là, c'est que quand on voit les autres chrétiens souffrir, on a souvent, mettons, on pense souvent au pays, les chrétiens persécutés dans les pays communistes ou, tu sais, totalitaires, régimes totalitaires, puis on se dit, on prie pour leur foi, puis ces gens-là nous édifient parce qu'on sait qu'ils tiennent bon, puis, tu sais, quand on lit des nouvelles de ces gens-là, ils sont vraiment, tu sais, inspirants. Alors, les frères qui souffrent pour leur foi, sont des inspirations pour nous. Mais aussi, on n'a pas besoin d'aller dans les pays communistes. Vous avez sans doute visité, nous, on avait une vieille roumaine, une dame qui est décédée déjà depuis plusieurs années. Mais cette dame-là, elle avait fini ses jours dans un foyer. Et puis, plusieurs allaient la voir, puis moi, j'y allais régulièrement. Et puis, à chaque fois que j'allais là, j'étais encouragé pas de voir le contexte autour, ça me décourageait bien raide, mais de voir cette femme tellement reconnaissante, et puis quand on priait ensemble, je m'en rappelle, ses prières ne finissaient plus parce qu'elle priait pour un, elle priait pour l'autre, elle avait vraiment un ministère de prière, de telle sorte qu'à chaque fois que j'y allais la voir, j'étais encouragé. Maintenant, je vais pour consoler quelqu'un qui vit quand même un contexte super difficile, avec des senteurs dégueulasses. Excusez-moi, mais je trouve ça épouvantable, ce contexte-là. Mais je sortais de là plus encouragé que peut-être elle-même. Alors, il y a comme une bénédiction qu'on voit. Alors, la consolation qu'éprouvent les uns console les autres. C'est de voir l'attitude des frères ou des sœurs dans l'épreuve, c'est vraiment une bénédiction. Et puis, pour aider aussi à placer notre confiance en Dieu, hein, il dit au verset 9, « afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu ». Alors, quand notre situation semble sans issue comme celle de Paul, bien, nous pouvons trouver consolation et réconfort, même, et Paul le dit ici dans le texte, même devant la mort. Et on a un autre frère de notre Église qui est décédé il y a quelques années. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Robert Letourneau, il s'appelait. Puis là, il savait qu'il s'en allait. Tu sais, c'était vraiment la fin. Et puis, je ne me rappelle plus le détail, ça fait quand même 4-5 ans. On a un texto de Robert qui nous dit « Je ne serai pas au culte avec vous, mais j'assisterai à un culte dans la gloire. » C'était mieux que le nôtre, là. Non, mais comprenez-vous l'espérance qu'il y avait dans le cœur de notre frère? Il espérait parce qu'il savait, comme Paul, que Dieu garde l'épreuve, là, on va peut-être mourir, là, mais il y a la résurrection des morts. Et il y a la présence du Seigneur par la suite. Alors, on est dans tous les cas, dans le pire des cas. Là, on va le dire, ça va bien aller. Quatrièmement, la consolation qui abonde en Christ. Après avoir parlé de toutes les afflictions, il ajoute un autre domaine, les souffrances de Christ. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ça, les souffrances de Christ? Bien, d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que c'est pas dans le passage, parce que dans le contexte, c'est pas n'importe quoi. C'est pas celle que Jésus endurait à la croix, les souffrances de Christ, ici. Ça peut peut-être vous déranger, mais pour moi, c'est clair que c'est pas de ça que ça parle. Ça parle pas non plus de cette souffrance que vous expérimentez quand que vous pétez le gros orteil. Tu sais, la souffrance que tous les gens souffrent, là, tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Puis c'est pas non plus les conséquences de nos inconséquences. C'est l'apôtre, c'est Pierre qui va dire de ne pas souffrir en relation au fait qu'on ne s'est pas mêlé de nos affaires. De ne pas souffrir parce que, tu sais, c'est pas ça qu'on est appelé. Puis c'est pas ça les souffrances de Christ non plus. Mais les souffrances de Christ dans ce contexte-là, c'est celles qu'on éprouve parce que nous sommes chrétiens. Les difficultés que nous éprouvons pour le service, hein, je lui montrerai quand Paul a été appelé, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est les souffrances de Christ. Et Christ, pour ainsi dire, continue de souffrir, mais à travers son Église. Hein, Jésus a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, la persécution que l'Église endure, les difficultés que l'Église endure, c'est aussi les souffrances de Christ, comprenez-vous? Ce ne sont pas les souffrances qui enlèvent nos péchés, mais ce sont les souffrances qui sont associées à des gens, des chrétiens qui suivent Christ et qui ont l'opprobre, la honte. Mais on comprend l'opprobre, tu sais. Autrement dit, on a l'air des beaux parlants, tu sais, pour certains. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, ça fait partie du projet. Et Paul aussi qui se fait dire, « Pourquoi me persécutes-tu? » Il persécutait Jésus, lui. Ben, il ne l'avait jamais vu. Il ne persécutait pas lui. Il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Il persécutait les chrétiens. Donc, c'est ça les souffrances de Christ, comprenez-vous? Il souffre. Il prenait comme personnel parce que c'était son peuple. Plus tard, dans l'Épître aux Corinthiens, dans cette épître-là, Paul va faire toute la nomenclature des souffrances qu'il a eues comme chrétien. Je vous assure que c'est consolant parce qu'on n'a pas vécu grand-chose comme difficulté si je compare à ce que lui a vécu. Alors, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de s'engager puis de prendre des risques pour Dieu, parce qu'il y a des promesses de consolation. Tu sais, les souffrances de Christ, là, ça fait partie du projet. Puis si vous prenez position, peu importe où, je pourrais vous raconter plein d'histoires de personnes qui ont osé défier la majorité puis qui ont parlé. Puis Dieu les a bénis. Oui, ils ont peut-être eu une mauvaise réputation suite à ça, mais pour de vrai, est-ce que c'est important? C'est ça qui est le pire? Franchement, non. citation de Marc ici. « Je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres avec, des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » La consolation que Paul a expérimentée, les versets 8 à 10. Après avoir parlé de la consolation en général, l'apôtre va y aller d'une façon plus personnelle en parlant de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Cette détresse était clairement en lien avec son ministère. Ce n'est pas parce qu'il était en vacances dans le sud, puis que là, il y a eu une épreuve, puis son billet d'avion, ou il a perdu son passeport. On parle d'épreuve en relation directe avec son travail. C'est ça des souffrances de Christ. Alors, peut-être une persécution, comme ça s'est passé à Lystre lorsqu'il a été lapidé puis laissé pour mort. Tu sais, réalisez-vous ça. Paul a été lapidé, puis on pensait qu'on l'avait tué, puis les gens qui le lapidaient sont partis. Tu sais, c'est une petite épreuve. En passant, là, tu sais, je veux dire, sur le side, comme on dit. Ben non, tu sais, je veux dire, c'est majeur. Ou bien, dans le livre des Actes, là, trois fois, il a fait naufrage. Tu sais, quand tu dis « tu coules », puis tu réussis à sauver ta vie. Bien, je veux dire, ça fait partie des souffrances de Christ, dans le sens, c'est ça qui était en lien avec son travail, son ministère. C'est clair qu'il a pensé mourir plusieurs fois. Puis là, il dit, « Je ne veux pas que vous ignoriez qu'est-ce que j'ai vécu. » Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il dit ça pour se plaindre? Non. Il dit ça pour qu'on expérimente la source d'encouragement que lui a expérimentée. Il dit pas ça pour attirer l'attention sur lui, tu sais, « Ah, je fais pitié, tu sais, j'ai gardé ce que j'ai fait. » Non. Mais il voulait que les chrétiens réalisent que comment Dieu l'a consolé à travers ça, bien, il peut le faire aussi pour nous, pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, c'est ça un peu l'idée qui est là dans le texte. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, « L'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu. » Lorsqu'on est gravement éprouvé, lorsque même peut-être la mort est là devant nous, ou la maladie, ou quelque chose de sérieux qui nous arrive, dites-vous toujours que quand que nous, on est comme plus capable de rien faire, mais ça donne à Dieu l'opportunité de se glorifier à travers les difficultés, les épreuves. Sixième et dernier point, la prière, une participation à la consolation. La prière des Corinthiens a fait une différence dans la vie de Paul et donne aux chrétiens qui ont prié l'occasion de remercier Dieu lorsque la prière est exaucée. Paul se dit assisté par les prières des Corinthiens. Il participe à son ministère par la prière. Mettons, il y a quelqu'un, il me semble, tantôt quand je suis arrivé, ils m'ont dit, quelqu'un m'a dit récemment, je pense que c'est ce matin, tantôt, que elle priait à chaque jour pour l'heure de bonne nouvelle. En tout cas, elle va se reconnaître si c'est ici, là, mais c'est tout récent. Je n'ai pas parlé à ben de monde à matin par ma femme. Ce n'est pas elle qui m'a dit ça. On participe au ministère de quelqu'un si on le soutient dans la prière. Si on le soutient financièrement aussi, bien sûr, pour l'heure de bonne nouvelle, par exemple. Mais quand on soutient, quand on prie pour quelqu'un, on fait partie de l'équipe qui va avoir des récompenses. Ce n'est pas la première fois que Paul demande à prier. 7 fois au moins dans les Épîtres, Paul demande la prière pour lui. Puis c'est encore là, toujours en relation avec le ministère, toujours en relation avec le besoin des chrétiens, l'aspect spirituel de leur vie. C'est toujours ça qui est sa priorité. Puis ça donne aux autres chrétiens, bien sûr, l'occasion de remercier Dieu. Quand on a prié pour quelqu'un, je ne sais pas, il y a des épreuves, c'est ce que notre frère Gilles a vécu récemment. Bon, quand vous avez entendu que ça va mieux, Est-ce qu'il y a une joie dans votre cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose de reconnaissance envers le Seigneur? Parce qu'on sait bien que notre vie tient tout à un fil, hein? Tu sais, je veux dire, on peut mourir pour pas grand-chose. Tu sais, il y a une dame de 80 ans passée qui m'a demandé de faire ses funérailles. Mais j'ai dit, en tout cas, si ça marche pas, j'espère que ça va venir aux miennes. Comprenez-vous? Parce que ça se peut en masse que moi, je parte avant elle, même si j'ai plusieurs années de moins qu'elle. Si ça ne marche pas juste avec l'âge, la moyenne au bâton, on s'entend, mais on peut mourir à tout âge. Puis une prière, la prière pour les frères et sœurs dans le travail, c'est une belle façon de manifester notre solidarité, puis un moyen concret d'aider vraiment les frères et sœurs qui travaillent. Quand nous avons prié pour quelqu'un et que la prière a été exaucée, bien sûr, ça nous donne cette occasion de rendre grâce. Il y a un livre qui s'appelle « Le livre ». C'est en fait un résumé du chapitre, OK? C'est comme une paraphrase du chapitre. C'est juste dit autrement, mais je trouve que ça vaut la peine qu'on le lise ensemble, tout simplement. Ça dit ceci, que notre Dieu est merveilleux, il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, source de toute miséricorde et de toute consolation. Il nous console en effet si merveilleusement dans nos soucis et nos afflictions. Et pourquoi le fait-il? C'est afin que nous puissions à notre tour, par la consolation que nous avons reçue de Dieu, consoler et aider ceux qui sont affligés et qui ont besoin de notre compassion et de nos encouragements. Sachez-le, si nos épreuves abondent à cause de Christ, son réconfort et ses encouragements abondent également pour nous. Nous nous heurtons à de nombreuses difficultés pour apporter le réconfort et le salut de Dieu. Mais dans nos épreuves, Dieu a été pour nous un appui et notre expérience personnelle peut être une aide pour vous et vous montre comment Dieu pourra tendrement vous réconforter quand vous passerez par des souffrances semblables aux nôtres. Il vous donnera la force de les supporter. Alors, je trouve que c'est un bon petit résumé du texte qu'on a lu ensemble, qu'on a regardé ensemble ce matin. Alors, comme l'apôtre Paul, bien, bénissons Dieu même au sein de l'épreuve, parce qu'il y a plein d'impact que notre attitude va avoir vis-à-vis des autres, mais pour la gloire de Dieu. Puis quand nous souffrons, pensons au bienfait de la consolation. Rappelons-nous ces quatre choses. Elle nous rapproche de Dieu, qu'elle nous rend aptes à consoler les autres, qu'elle encourage les autres, littéralement, le voir les chrétiens dans l'épreuve qui ont une belle attitude, c'est vraiment stimulant et encourageant, et qu'elle aide à placer notre confiance en Dieu et nulle part ailleurs. C'est ce que Paul a fait dans ce chapitre-là, et c'est ce que nous sommes invités à faire pour chacun d'entre nous. Alors, pensons à ce que Paul a enduré, et surtout, comment il a expérimenté le Dieu de toute consolation. Alors, voulez-vous expérimenter les consolations de Dieu? Acceptez avec joie de souffrir pour lui. Parce que si vous n'acceptez pas de souffrir pour lui, vous allez éventuellement quand même souffrir pour lui. Et là, tout le système va être bousillé. Vous allez envoyer un mauvais message. Vous n'allez pas glorifier Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui va être encouragé de voir votre attitude si mauvaise, comprenez-vous? Il y a plein d'incidences, il y a plein de conséquences. Alors, il ne faut pas se relâcher dans la prière. Non seulement cela fait une différence pour ceux pour qui on prie, nous pourrons sincèrement remercier Dieu si la prière est exaucée. Cette prière commune qu'on a faite, si elle est exaucée, bien, on va ensemble se réjouir, non? Prions. Seigneur, merci pour ce texte. Merci parce qu'il y avait beaucoup de matériel là-dedans. Puis, Seigneur, c'est un texte, des fois, qu'il faut réfléchir parce que c'est pas si évident que ça à première lecture, qu'est-ce que ça dit. Mais quand on s'y attache, quand on s'y arrête un peu plus, bien, Seigneur, on voit qu'il y a des trésors là-dedans. Puis on prie que tu nous aides à bien comprendre le message de ta parole pour nos vies. Puis je veux implorer aussi ta bénédiction sur cette assemblée. Je veux te remercier pour la fidélité, Seigneur. Je vois des frères et des sœurs qui sont là depuis des années, fidèles, Seigneur, qui ne lâchent pas. Et je te remercie pour ça. Et j'aimerais, Seigneur, implorer ta bénédiction sur eux, afin que tu continues de les garder, que tu gardes bien, bien allumé ce lumignon, Seigneur, cette lumière qui brille dans cette ville. Et permets, Seigneur, que d'autres voient cette lumière, qu'ils viennent à toi et que cette assemblée puisse grandir en nombre aussi. Alors, je veux les remettre entre tes mains, prier pour eux et te dire merci encore une fois pour le temps qu'on a eu ce matin. Je prie ça dans le nom de Jésus. Amen.